Bienvenue à tous dans le Labomatique, le magazine de Radio Campus Rennes dédié à l'actualité de la recherche scientifique. Ce mois-ci, nous nous attarderons sur les expériences de la jeunesse, en prenant appui notamment sur les travaux de trois sociologues. En votre compagnie, nous essaierons de rendre compte de la diversité des expériences de la jeunesse grâce à des matériaux d'enquête qualitatifs et quantitatifs que nos invités vous présenteront en détail. Et si la jeunesse n'était qu'un mot, se demandait le sociologue Pierre Bourdieu dans son petit manuel « Questions de sociologie ». Dans ce court texte, Pierre Bourdieu invitait ses lecteurs à dépasser la représentation des jeunes comme celle d'une entité sociale homogène, qui se définirait seulement à partir d'une donnée biologique, l'âge. La définir de la sorte, c'est se refuser de prendre en considération l'extrême fragmentation des expériences qui la composent. Pour rendre compte de toute cette diversité des destins, différents chemins sont possibles. Pour notre part, nous avons retenu celui des usages du temps par les étudiants avant d'aborder la fois prochaine celui des jeunes en errance. Si vous ne le connaissez pas encore, sachez que Rennes Métropole a créé un bureau des temps en 2002, lequel agit concrètement sur le quotidien des Rennais, en coordonnant une grande variété d'acteurs institutionnels et associatifs sur le territoire. Il sensibilise aussi les habitants de la métropole par l'intermédiaire de conférences ou en restituant les résultats de ses enquêtes. Le bureau des temps a par exemple agi sur la saturation des transports en commun, et notamment du métro. En s'intéressant aux générateurs de flux, compris entre la gare et Villejean, ils ont progressivement constaté que la désynchronisation des horaires de cours des étudiants de Rennes 2 aurait un impact considérable sur la qualité des usages du métro. Pour sa conférence du mois d'octobre 2014 au Champ Libre, le bureau des temps a invité Muriel Darmon et Patricia Loncle, toutes deux sociologues, afin de questionner les usages du temps par les étudiants.
Parler d'une de Barbès et les dunes de Belleville.
Patricia Loncle est chercheure en sociologie à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Elle appartient au Centre de recherche sur l'action politique en Europe, dont le directeur est Claude Martin, et s'intéresse depuis plus de 15 ans aux politiques jeunesse. Elle est venue présenter les résultats provisoires d'une enquête à laquelle vous avez peut-être répondu, concernant les conditions de vie des étudiants rennais. Elle nous présente les tendances qui se dégagent sur notre territoire dans une perspective sociologique, soucieuse de questionner les inégalités sociales.
On va peut-être préciser aux auditeurs que c'est une enquête quand même d'ampleur, c'est-à-dire que vous avez touché un grand nombre d'étudiants. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler quelques chiffres et, pour vérifier un peu la représentativité statistique?
Voilà, c'est ça. Alors donc, notre objectif, c'était de toucher l'ensemble des étudiants des deux universités par un questionnaire en ligne. Donc, la population globale, c'était 40 000 étudiants à peu près, et on a eu un peu plus de 7 500 réponses. Une fois détoyées, 7 500 réponses. Donc, du coup, ça nous fait un grand nombre de questionnaires qui sont exploitables. Et puis, on voulait articuler cet aspect quantitatif avec une enquête qualitative par entretien. Donc, on a fait 40 entretiens semi-directifs avec 30 étudiants de L2 et 10 étudiants de M1. Et bien sûr, 20 filles et 20 garçons. Donc, dans l'équipe, maintenant, on est 5 personnes. Il y a Béatrice Valdès qui nous a rejoint parce qu'elle elle venait juste d'être recrutée au moment où on a commencé l'étude, qui, elle, avait déjà travaillé sur ces questions-là parce qu'elle était dans un observatoire de la vie étudiante parisien. Et puis Emmanuel Monet avait déjà travaillé sur le logement étudiant. En revanche, Mathieu Leprince, Isabelle Danic et moi, on n'avait jamais travaillé sur les étudiants. Du coup, à la fois pour le laboratoire, c'était quand même une première, et puis pour nous aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout habituée de ce genre de sujet. Je n'ai jamais travaillé sur les étudiants et je n'ai jamais travaillé sur les politiques de l'enseignement supérieur.
On va peut-être revenir sur le contenu du questionnaire qui était proposé. Alors, c'était un questionnaire qui comportait 107 questions.
Absolument.
Et je vais vous poser deux questions en une. Donc, quels étaient les grands axes qui ont été abordés dans ce questionnaire? Et par rapport à votre intervention au Champ Libre, qui était sur les usages du temps, est-ce que les usages du temps étaient quelque chose de transversal et qui a été objectivé a posteriori, ou est-ce que c'était quelque chose de constitutif de ce questionnaire?
Alors, donc effectivement, c'était un très gros questionnaire. On avait 107 questions et on a fait des efforts parce que les premières versions, c'était plutôt autour de 150 questions. Donc, notre objectif, c'était que les étudiants ne mettent pas plus de 3/4 d'heure à répondre au questionnaire. C'était organisé en 9 thèmes.
D'accord.
Donc, il y avait les parcours de formation et les conditions d'études. la question du logement des étudiants, le temps libre des étudiants, les étudiants et leurs relations avec la famille, les amis et le sentiment d'isolement, le budget des étudiants, ressources, dépenses, satisfaction, l'activité rémunérée, donc ça je l'ai abordé pas mal dans la présentation, la santé des étudiants, le temps des étudiants et la question de la mobilité. Alors, par rapport à la question du temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le bureau des temps m'a contacté dès le mois de janvier. Donc, en fait, je savais qu'on allait devoir développer cette question-là. Donc, d'accord. On a intégré des questions spécifiques sur le temps.
Ah, d'accord.
Mais, effectivement, c'est quand même une dimension transversale.
Avant d'entrer peut-être plus en détail dans les différents résultats de l'enquête, ma question sera toute simple, c'est est-ce qu'il y a eu des surprises dans la première analyse des résultats ou est-ce que vous n'avez pas encore assez de recul pour vraiment saisir l'ampleur ?
Je vais parler en mon nom parce que c'est difficile de dire si les autres ont été surpris. Il y a un certain nombre de choses quand même qui m'ont étonnée. Un des premiers aspects, c'est effectivement ce que j'ai présenté sur l'activité rémunérée des étudiants. Je connaissais un peu la littérature sur ces questions-là parce que je m'intéresse aux conditions de vie des jeunes. Donc, je savais évidemment que les étudiants travaillaient beaucoup, mais c'est la proportion d'étudiants qui travaillent beaucoup qui m'a étonnée. Et puis, du coup, le caractère extrêmement pénible de la conciliation qu'ils sont obligés de faire entre les études et le travail rémunéré. Et voilà. Et du coup, les inégalités sociales très, très fortes. Qui touche la population. Donc ça, c'est une première chose. Et une autre chose qu'on n'a pas du tout présentée la semaine dernière, c'est vraiment les conditions de santé. Alors, sur la consommation, j'ai été surprise, mais plutôt positivement.
D'accord.
Parce que c'est vrai que ce qu'on voit quand on regarde finement, c'est que certes, les étudiants boivent un peu, fument un peu, mais y compris du cannabis. Mais quand on regarde la proportion d'étudiants qui consommeraient beaucoup, finalement, c'est pas énorme. Et donc, par rapport à ce qu'on entend beaucoup dans les médias, etc., ça va permettre de travailler sur ces discours alarmistes et puis de revenir là-dessus. Donc je trouve que ça, c'est vachement intéressant. Un aspect plus, alors à mon avis, beaucoup plus préoccupant, c'est la portion d'étudiants, alors à peu près de moitié, qui renoncent aux soins. Et puis, je crois que c'est 47%. Et dans ces 47%, la moitié pour des questions financières.
Financières, oui. Bon, alors, si on revient sur la question un peu des usages du temps, quels sont les grands types d'usages du temps qu'on peut recenser chez les étudiants ? Et on imagine que pour un sociologue, tout l'intérêt, c'est de savoir comment ils s'articulent.
Oui, sur les usages du temps, ce qu'on a travaillé, nous, c'est vraiment le temps des études, le temps des relations avec les amis, avec les parents, et puis le temps du travail rémunéré, puisque ça concerne quand même la moitié des étudiants.
D'accord.
On a beaucoup travaillé ça. On a travaillé un peu, mais à mon avis, pour l'instant, pas encore de manière assez satisfaisante, mais ça va venir, la question de l'engagement associatif.
Oui, ça me paraissait assez intéressant, ce que vous disiez conférence.
Donc voilà, il y a aussi toute cette dimension-là. Et donc l'articulation, alors malheureusement, l'articulation, vous voyez, c'est dans les entretiens qu'on va vraiment beaucoup la mettre en évidence. Alors on a commencé à travailler les aspects qualitatifs et on voit que les étudiants passent le plus clair de leur temps à suivre leurs études. Mm-hmm. Ça semble un peu logique, mais enfin, plus ou moins en fonction des filières, mais voilà, c'est comme ça que s'organisent les choses. Ils passent beaucoup de temps avec leurs amis.
Oui.
C'est le deuxième poste d'activité, entre guillemets. Et puis, pour ceux qui travaillent, après, ça dépend, c'est ce que j'ai présenté l'autre jour, du nombre d'heures travaillées.
On va y revenir, ouais.
Mais voilà, et la question de l'articulation, en fait... Comme ça, il me semble qu'à part les étudiants de médecine, du secteur de la santé, les étudiants ingénieurs, qui, eux, vont passer un temps très, très, très considérable à leurs études, où vraiment, ils vont être très mobilisés par ça, les autres arrivent à concilier à peu près les autres modes d'activité, de temps. Sauf ceux qui travaillent, disons, plus de 10 heures par semaine, où là, on voit un temps qui commence à être très contraint.
C'est justement ma prochaine question. Donc, c'est revenir un peu sur le travail rémunéré, parce que vous avez vraiment présenté ça en détail lors de la conférence au Champ Libre. Il y avait des données qui étaient assez saisissantes. Vous avez pu identifier des seuils à partir desquels, vraiment, l'articulation temps d'études, temps de travail commençait à être vraiment compliquée.
Oui. Alors, c'est vrai que là, on voit, c'est 44% des étudiants qui travaillent, du coup, ça fait de la moitié, donc ça fait de la moitié de la population totale, donc un quart des étudiants qui travaillent plus de 10 heures par semaine sur la population totale. Et parmi ceux-là, pratiquement 20% qui travaillent plus de 20 heures. Donc voilà, on a quand même des chiffres qui sont vraiment pas négligeables. Et dans les entretiens, ce que j'ai pu voir, c'est que parmi ceux qui travaillent plus de 20 heures, un certain nombre travaillent la nuit. Donc vous voyez, on est quand même dans des cas de figure où on perçoit bien, maintenant, même sans être allé encore très très loin dans l'analyse, que cette question de l'articulation études-travail rémunéré pose problème quand même pour une bonne partie d'entre eux.
Du point de vue de la réussite éducative, hein, on précise.
Voilà, mais même pas seulement, aussi du point de vue de la santé, du point de vue... voilà, ils disent dans les entretiens qu'ils sont soumis à un stress quand même très très important. Hein, donc... c'est vrai que ça met en péril la réussite de leurs études, mais ça les met en péril tout bonnement, enfin je veux dire tout court.
Alors moi il y a toujours une question que j'aime me poser, c'est aussi le lien avec les CSP, parce que là après on peut directement aborder
les
inégalités sociales.
C'est vraiment étonnant parce que les premiers résultats ne montrent pas un lien avec la CSP des parents.
Et j'en étais étonné dans la conférence.
Bah oui, nous aussi, parce qu'on se disait... voilà, on avait une vue un peu mécanique des choses, où on aurait... plus les étudiants sont pauvres, plus ils travaillent. Hein, on avait ça en tête. Évidemment.
Classiquement, oui.
Alors, on a regardé, donc, sur la population générale enquêtée, non. Hein, si on regarde la population générale enquêtée et la population générale des étudiants qui ont une activité rémunérée, on ne voit pas le lien. Et donc, on a croisé, j'ai demandé à ma collègue Béatrice Valdès de croiser la CSP du père, de la mère, avec les étudiants qui travaillent le plus. On voit une petite variation pour ceux qui travaillent plus de 20 heures par semaine par rapport à la CSP du père. Mais c'est vraiment pas... voilà.
C'est pas significatif finalement.
Pas tellement. Ouais. Donc du coup, pour l'instant, on sait pas pourquoi.
Est-ce que ça peut permettre peut-être de questionner aussi alors, les frontières entre des usages du temps qui seraient contraints et des usages choisis ?
Alors, ce qu'on voit dans le CALI, c'est qu'effectivement, on a... un certain nombre d'étudiants qui travaillent, mais alors c'est 13 étudiants hein, qui travaillent sur les 40, donc vous voyez, il faut prendre ça quand même avec du recul. Une partie d'entre eux travaillent parce qu'ils sont quand même plus vieux que les autres et ils estiment qu'ils n'ont plus à demander à leurs parents de les aider financièrement. Et puis sans doute aussi des étudiants qui le font parce que ils y trouvent un intérêt particulier très fort. Et puis voilà, et puis on aurait quand même cette part d'étudiants qui sont plus pauvres et qui travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix.
Il n'y a pas qu'une relation contrainte au travail, il y a aussi peut-être les questions de satisfaction à travailler.
Oui, et d'ailleurs, même dans les entretiens avec les gens qui travaillent la nuit, là, je pense à un certain nombre qui sont pions dans des internats, ils expliquent qu'ils y trouvent beaucoup d'intérêt. Même si c'est difficile physiquement, moralement, etc., ils y trouvent aussi beaucoup d'intérêt.
D'accord. Ouais. Ok. Ouais, c'est important hein, d'abord, je pense, qu'on voit pas le travail que comme quelque chose de contraint pendant les études.
Alors après, je suis pas encore allée lire, mais je vais le faire là dans les semaines qui viennent. Les entretiens de ceux qui travaillent au McDo, de ceux qui sont vendeurs, femmes de ménage ou hommes de ménage. Bon, ça va falloir voir.
Il y avait quelque chose qui avait été développé lors de la conférence au Champ Libre, qui me paraissait essentiel peut-être de rappeler aux auditeurs. En quoi le rapport au temps des étudiants peut-il constituer un rapport social ? Finalement, c'est ce qui était développé comme idée.
Oui,
est-ce que vous pourriez retracer un peu le cheminement logique qui permet de produire cette assertion.
On voit bien que les étudiants dans ces différents temps qui peuvent passer avec leur père, avec leurs amis, leurs parents ou leurs collègues de travail sont dans des rapports sociaux. Hein. C'est des activités de socialisation. Donc nous, on essaie de regarder ça de ce point de vue-là et puis aussi du point de vue de leurs conditions sociales, c'est-à-dire de voir... qu'est-ce qui fait dans leur niveau de vie, hein, leurs conditions de vie, leurs ressources, etc., qui vont être contraints dans différents temps-là. Excusez-moi. Par exemple, dans les entretiens, les étudiants nous disent beaucoup de choses sur comment ils occupent leur temps libre en fonction de leur niveau de vie. Donc, par exemple, ils nous disent beaucoup de choses sur on va au resto, mais une fois de temps en temps, parce que voilà, on a un budget contraint. Mais par contre, on va passer beaucoup de temps à la maison, chez les uns, chez les autres, en fonction de la taille de notre logement, en fonction de rien. Et puis, on va développer telle et telle activité d'engagement parce que on a telle conviction, qui sont des convictions politiques ou idéologiques. Et donc, ça va avoir une influence déterminante sur la façon dont ils organisent leur temps.
D'accord.
Donc, vous voyez bien, toutes ces questions-là sont effectivement des questions qui nous renvoient à la fois à la socialisation et aux différentes activités sociales, idéologiques, politiques des étudiants.
D'accord, donc ça permet d'envisager aussi le rapport au temps comme quelque chose de socialement distribué aussi.
Absolument. On y est allé un peu avec précaution parce que effectivement on a du mal à travailler la question de la CSP des parents, parce que ça a l'air d'être très significatif sur un certain nombre de choses, quoi. Donc bon, il va falloir qu'on creuse ça.
Donc rapport social permet de penser aussi inégalité sociale.
Absolument. On va essayer de travailler ça plus en travaillant les ressources des parents et des étudiants. Donc là, on avait tout un tas de questions dans le questionnaire sur comment se distribuent leurs ressources, qu'est-ce qui est de l'ordre de des différentes allocations, des bourses, de ce que les parents peuvent octroyer, voire les grands-parents, et y compris en nature. Est-ce que les parents donnent de la nourriture, des choses comme ça. Donc on va travailler beaucoup ces questions-là, en essayant de croiser effectivement les conditions de vie avec ces aspects-là.
Si cette enquête a permis de combler un manque de données au niveau local, elle n'a pourtant pas épuisé son objet de recherche, les étudiants concernés étant ceux des universités Rennes 1 et Rennes 2. Muriel Darmon, chercheur en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, nous apporte des précisions sur les étudiants de classe préparatoire. Elle est l'auteur de différents ouvrages, dont le plus récent, Classe préparatoire, la fabrique d'une jeunesse dominante, est paru l'année dernière aux éditions La Découverte. Ensemble, nous sommes revenus sur la particularité des classes préparatoires par rapport à la question des usages du temps. Nous sommes donc revenus sur l'enquête de terrain qu'elle a menée auprès de classes préparatoires pendant une période de 2 ans.
En fait, ce qui me paraissait important, c'était de rentrer dans les classes préparatoires. Les statistiques sur qui est-ce qui rentre en prépa, qui est-ce qui sort des prépas, ça, on les avait et on savait. Et c'était des statistiques qui confirmaient année après année, malheureusement, la reproduction sociale, pour parler comme Bourdieu, mais disons la sélection sociale des élèves de classes préparatoires. Mais en revanche, on avait là encore moins de choses, si on peut le dire comme ça, sur ce qui se passait dans ces classes préparatoires et sur comment on pouvait, sur leur quotidien. J'ai pris 4 classes de prépa scientifique et de prépa économique que j'ai suivies au fur et à mesure de leurs 2 années, de 2 années de scolarité classique, sachant que certains élèves sont partis au bout de la première année et d'autres en ont fait une 3e, mais bon.
Alors effectivement, c'est un matériau qualitatif que vous proposez dans cet ouvrage et vous décrivez finalement quelque chose très finement, c'est le processus de socialisation des étudiants de classe prépa. Donc du début à la fin de la prépa, comment on produit une jeunesse dominante, finalement c'est la question un peu de l'ouvrage. Ça peut paraître un peu éloigné du sujet de ce soir au champ libre, c'est-à-dire les usages sociaux du temps par les étudiants. Peut-être pour expliquer aux auditeurs, partir de 2 notions que vous développez dans l'ouvrage. Donc déjà la notion d'institution enveloppante qui vous sert à décrire un peu ce processus de socialisation, ce qui pourrait peut-être nous mener aussi à décrire la façon dont ce processus est avant tout temporel.
Donc en effet, avant d'en venir à la question des apprentissages temporels, il faut d'abord parler de ce qui rend possible ces apprentissages temporels. Et si les étudiants de classe préparatoire ou les élèves de classe préparatoire, comme on les appelle parfois, apprennent le temps en classe préparatoire, et j'y reviendrai, c'est parce que l'institution est suffisamment puissante pour effectivement leur faire apprendre une chose aussi profonde et parfois même inconsciente qu'un rapport au temps particulier. Donc, institution puissante que j'appelle enveloppante pour désigner la façon dont elle a prise, en fait, sur ces élèves-là. Une des choses que je travaille particulièrement sur cette question de l'institution enveloppante, c'est la façon dont elle va instaurer un certain type justement de défilement du temps. J'ai parlé d'avance rapide, en fait. Le temps n'obéit pas aux mêmes lois à l'intérieur des murs de la classe préparatoire qu'à l'extérieur. Et ces lois sont des lois d'avance rapide. Les enseignants, et ça c'est l'observation des cours en fait qui rend possible de voir ça, mais les enseignants ont un monceau, pléthore de petites expressions, de petits mots, de petites façons d'organiser leurs cours qui parsèment les cours et qui vont faire que les élèves ont le sentiment d'une urgence qui s'installe très vite. Et de même, dans les cours, il y a aussi ces dizaines de notations temporelles, de projections des élèves dans le futur, mais le futur, c'est déjà maintenant. Donc en fait, le temps est absolument accéléré et c'est ces types d'avances rapides qui vont produire, encore une fois, que les élèves en aient conscience ou pas, mais un certain type de rapport au temps particulier ou en tout cas déjà d'urgence temporelle particulière. Ce qu'on peut peut qualifier de socialisation silencieuse, parce que justement, elle n'est pas explicite, elle ne se dit pas comme telle, mais fait que les élèves vont apprendre un certain type de rapport au temps. C'est une logique de l'urgence, une logique de l'avance rapide dont j'ai parlé, mais également, et ça peut-être par rapport à d'autres usages du temps ou disons normes temporelles dans l'enseignement supérieur, une individualisation voilà, très forte du management, si vous voulez, des élèves par l'institution. C'est-à-dire qu'il va y avoir une individualisation forte de l'usage que les élèves font du temps, un contrôle des absences. En classe préparatoire, contrairement à l'université, on peut avoir des punitions temporelles. Une punition temporelle, c'est d'être collé un dimanche, de devoir revenir au lycée un dimanche pour faire un travail qu'on n'a pas fait ou pour répondre à un mauvais usage temporel ou autre qu'on a pu avoir, etc. Donc, cette individualisation du contrôle, il concerne plein d'aspects de la vie des préparationnaires, mais donc en particulier hein, l'usage qu'ils font du temps. Une des choses qu'ils sont censés apprendre en classe préparatoire, c'est à faire les choses sous pression temporelle. Et donc, est noté à la fois dans ces cas-là, si vous voulez, la réalisation de l'exercice, la réussite ou l'échec de l'exercice, mais également la gestion temporelle et la gestion du temps des élèves. Est-ce qu'ils ont su directement comprendre que telle question, ça allait leur prendre trop de temps et qu'il fallait passer à l'autre? Est-ce qu'ils ont su bien gérer leur temps pour faire les deux tiers de l'exercice? Parce que de toute façon, personne n'est censé faire l'exercice dans sa totalité, donc il faut le comprendre tout de suite et essayer de faire le maximum. Enfin, toutes ces connaissances de soi-même face au temps, de comment on gère le temps, etc., deviennent des connaissances directement scolaires. Ça, c'est pas une spécificité en quelque sorte en soi, mais en revanche, la systématicité avec laquelle ce rapport au temps des élèves est évalué en fait en classe préparatoire est quelque chose, oui, je pense, de tout à fait spécifique.
Alors, jusqu'ici, on parle de classe préparatoire sous la forme d'un bloc un peu monolithique. Il y a trois types de classe préparatoire. Est-ce qu'elle se distingue par rapport à la norme temporelle dont vous parlez
Alors, oui. La réponse est oui. Et pour la développer un peu, donc, je n'ai pas travaillé sur les classes préparatoires littéraires, donc là, j'en parlerai pas, même si j'aurais des choses à dire en tant qu'agent social et non pas sociologue. Mais en ce qui concerne les classes préparatoires économiques et les classes préparatoires scientifiques, oui, il y a des différences entre ces deux filières dans le rapport au temps et les normes temporelles. Une des choses qui rend difficile la comparaison, c'est le fait que j'ai observé ces deux classes en tant que filières différentes, mais c'était aussi des classes de niveaux différents. Et qui veut dire niveau différent dit aussi, disons, pression, y compris temporelles, différentes. Les classes scientifiques que j'ai observées sont des classes scientifiques vraiment situées très haut dans la hiérarchie, avec beaucoup d'élèves qui potentiellement peuvent prétendre aux meilleurs concours, et donc une pression temporelle plus forte. Une différence potentielle entre classes scientifiques et classes économiques, dans le fait que les classes économiques ont un rapport au temps qui apparaît de prime abord un peu plus moqueur, un peu plus lointain, un peu plus... Il y a un jeu avec le rapport au temps. Il y a une résistance collective au rapport au temps, des sortes de chahuts qui sont très acceptés hein, par les enseignants, qui font partie de la tradition des classes que j'ai observées, mais donc des chahuts assez sages, pas non plus des révolutions à l'intérieur de la classe, mais des chahuts qui consistent justement à faire traîner un peu certaines choses, à applaudir certaines réponses, donc ça fait perdre du temps, à jouer de ce jeu de perte du temps, à manifester en fait un rapport justement plus distant aux normes temporelles. Là où, dans les classes scientifiques que j'ai observées, il y avait au contraire une sorte de rapport plus scolaire aux normes temporelles scolaires, préparationnaires, et donc une sorte d'obéissance plus stricte, en fait, à l'avance rapide préparatoire, à la pression temporelle, etc. On n'est pas préparationnaire scientifique comme on est préparationnaire économique. Il y a des rapports à ce que c'est que la prépa qui sont différents, et donc des rapports au temps préparatoire qui sont effectivement différents.
Ensuite, lorsqu'on parle de normes temporelles, ou tout simplement de normes en sociologie, ça permet de distinguer souvent des groupes, c'est-à-dire ceux qui réussissent à satisfaire à la norme et ceux qui n'y arrivent pas. Il me semble que dans votre ouvrage, vous réussissez à distinguer deux types de profils d'étudiants avec des expériences et des rapports au temps qui sont bien distincts. Vous parlez des maîtres du temps et des dominés temporels. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser un peu les contours de ces profils?
Les maîtres du temps en prépa, c'est une figure qui apparaît assez rapidement dans les entretiens avec les élèves, voire dans les cours. En gros, déjà, ils parlent de leurs enseignants, comme des maîtres du temps, c'est-à-dire qui peuvent fixer le temps, qui en fixent le déroulement, etc. Mais très rapidement, il parle aussi de certains élèves, parfois sur un mode un peu mythique, comme étant les maîtres du temps. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, sur cette figure mythique ? Bah, c'est par exemple l'élève qui va rentrer, dont on me décrit, qui va rentrer en classe, il est un peu en retard, il arrive, il jette un coup d'œil à l'exercice que le prof est en train de faire au tableau, et il est capable, donc vous voyez, il y a un côté assez mythique, assez légendaire, et il est capable, en fait, d'anticiper, d'être déjà 100 milieux en avance, même sur l'enseignant, donc ce qui est, voilà. C'est aussi cette figure un peu mythique, donc je reviendrai ensuite sur ces composantes réelles, hein, mais figure un peu mythique, le maître du temps, c'est celui qui, en prépa, travaille un peu comme il le souhaite, mais qui néanmoins a des très bons résultats, qui va pouvoir continuer à s'occuper de son groupe de rock, tout en continuant à avoir des très bons résultats, etc. Donc tout ça, ça forme cette figure un peu qui est regardée avec admiration, qui est respectée, etc. Est-ce que ça a vraiment ensuite un sens réel et pas seulement légendaire ou mythique, voilà. Sachant qu'il y a certains élèves qui peuvent jouer de cette figure mythique, qui peuvent dire qu'ils n'ont pas travaillé alors qu'en fait ils ont travaillé, qui peuvent dire qu'ils sont allés à un concert de rock mais en masquant le fait que par ailleurs ils auront travaillé pendant la nuit après pour récupérer, etc. Donc il y a un jeu autour de ce qu'on appellerait en sociologie le capital symbolique de cette figure des maîtres du temps, qui est une figure qui est légitime, qui donne du prestige. Eh bien, en réalité, il se trouve que c'est pas si mythique ou légendaire que ça de dire qu'il y a effectivement des différences entre, disons, grossièrement deux types d'élèves, ou en tout cas des élèves qui effectivement manifestent par rapport à différents critères une maîtrise temporelle, et d'autres qui en gros manifestent une soumission, une sorte de panique temporelle plus grande. Donc les maîtres du temps ou les élèves qui vont manifester une maîtrise temporelle, ça va être ceux qui justement vont continuer à pouvoir maîtriser leur emploi du temps en classe préparatoire par rapport à l'urgence, par rapport à l'avance rapide. C'est ceux qui vont dire, moi je m'arrête à 9h de toute façon tous les soirs parce que si je travaille trop tard, après je ne dors pas. Par comparaison, d'autres élèves vont dire, moi je n'arrive pas à m'arrêter de travailler. Je travaille jusqu'à minuit, je travaille jusqu'à 1h, je travaille jusqu'à 2h. Donc quand on regarde les résultats, on s'aperçoit que la posture dominante, c'est celle qui consiste à dire, il y a un moment où il faut s'arrêter de travailler. Pouvoir dire ça, il y a un moment où il faut s'arrêter de travailler. Donc on a comme ça des systèmes d'opposition entre deux pratiques, deux usages du temps. Et une des choses que j'ai cherché à montrer, c'est que ces deux usages du temps ne se situent pas au hasard dans l'espace social, et notamment dans l'espace social des classes sociales. En gros, les étudiants d'origine supérieure, moyenne ou supérieure, sont bien plus disposés à devenir ou à manifester ces pratiques et ces usages de maîtrise temporelle. Du coup, ça interroge effectivement la façon dont ces rapports au temps sont des rapports sociaux. Des rapports, y compris des rapports de classe, dont il faudrait savoir où ils s'incorporent, quand ils s'incorporent, etc.
Alors là, vous parlez donc d'un rapport au temps socialement distribué à l'intérieur de la classe préparatoire, sauf que les élèves ne sont pas que des élèves, ce sont aussi des personnes avec des familles et des trajectoires biographiques bien identifiables pour certaines. Vous dites dans votre ouvrage qu'un flou en fait existe entre le temps des études et celui des loisirs en classe préparatoire, qui est finalement un continuum entre les deux. C'est peut-être là aussi qu'on peut saisir la question des inégalités sociales à l'école, et notamment dans les classes dominantes.
Oui, disons que, alors, une des choses qui me paraît importante, c'est justement d'aborder les inégalités sociales avec ce prisme des inégalités temporelles. C'est-à-dire de dire, et ça rejoint la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, mais de dire qu'effectivement, les inégalités sociales devant l'école sont aussi des inégalités temporelles, et que le temps joue dans ces inégalités. Disons que le flou entre temps du travail et temps du loisir en classe préparatoire, il est principalement lié au fait que le temps du loisir y est très réduit. Et du coup, les élèves vont reconquérir comme des temps de loisir, par exemple d'amusement en groupe, de blagues, de fou rire, etc., des temps de travail. Sauf que ce faisant, ce qu'ils apprennent, c'est que voilà, un moment de travail intense est aussi un moment de plaisir, peut quand même être un moment de plaisir, de délire, de fou rire, etc. Et ils apprennent quelque chose qui est typique des rapports au temps des classes supérieures et qui est le fait qu'il y a une indistinction, un flou, une frontière, disons, très labile entre le travail et le loisir pour les classes supérieures. Et c'est quelque chose qui a été travaillé par la sociologie, en fait, surtout au moment de l'enfance et des éducations familiales. Il y a eu des travaux sur, justement, les jouets enfantins et le fait que, dans les familles de classe supérieure, les jouets qu'on offrait aux enfants étaient des jouets éducatifs. Et donc, on apprenait déjà, en fait, par ces jouets éducatifs aux enfants, à considérer que le temps du jeu, c'est aussi un temps de travail, c'est un temps qui peut servir à la réussite scolaire, etc. Enfin, voilà. Quant aux familles populaires, il y a en revanche une culture populaire très forte de l'enfance et du jeu comme justement préservé de la contrainte scolaire. C'est quelque chose, justement, jouer quand on est enfant, c'est au moins, on n'a pas à se poser des problèmes de travail, que ce soit le travail scolaire ou le travail plus tard du monde du travail, qui est un monde effectivement dur et opprimant, oppressant pour les classes populaires. Donc, voilà. Donc, au contraire, l'enfance et le jeu comme un lieu préservé, un moment préservé du temps du travail et de l'éducation. Et du coup, ce sont des petites choses très tôt, très précoces dans la petite enfance des uns et des autres qui vont construire des rapports très très différents à ce que c'est que le travail, ce que c'est que le jeu, etc.
Moi j'avais une dernière question, c'est-à-dire que les classes préparatoires semblent être un bon terrain d'enquête pour finalement, qui donne à voir avec acuité finalement l'ensemble des éléments que vous avez pu apporter jusqu'ici, mais est-ce qu'on pourrait pas voir aussi que ça se recompose finalement dans les autres filières et que c'est partout pareil, chaque filière d'enseignement supérieur dispose de ses propres normes temporelles, à l'intérieur desquelles sont ceux qui arrivent à y satisfaire et ceux qui n'y satisfaisent pas.
Ça, c'est quelque chose que Patricia Loncle a montré en fait avec l'enquête sur les étudiants rennais et puis aussi, je pense au travail d'un ancien collègue Mathias Millet qui a travaillé sur une comparaison entre les étudiants en médecine et les étudiants en sociologie. Justement, la façon dont dans chacune de ces filières, on apprenait un type de rapport au temps particulier. On sait bien que par exemple, les exercices qu'on demande aux étudiants en médecine, par exemple les QCM, etc., ne sont pas les mêmes que ceux qu'on demande aux étudiants en sociologie, les dissertations, les réponses à des questions plus longues, etc. Et que du coup, c'est pas le même rapport au temps qui va s'incorporer dans l'une ou l'autre de ces filières.
C'était le Labomatique, le magazine de Radio Campus Rennes dédié à l'actualité de la recherche scientifique. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr ainsi que des liens vous permettant d'approfondir le sujet de cette semaine. Pour les curieux, la version longue de l'émission est disponible sur www.suncloud.com/radiocampusrennes. La fois prochaine, nous aborderons la question des jeunes en errance en compagnie de Céline Rothé, sociologue à l'École des hautes études en santé publique de Rennes.